Alors, Madame Yao, Madame Sylvie Yao, directrice de cabinet de la Première Dame, bienvenue.
Merci.
Mais vous pouviez pas mieux tomber parce que j'ai deux plats de foutou accompagnés de sauce arachide et c'est bien volontiers que je vais le partager avec vous.
Avec grand plaisir.
D'accord, on va se laver les mains tout de suite et puis on va déguster tout ça. Je les fais moi-même, hein.
Ah oui?
Vous verrez de quoi je suis capable. Alors, dans le cadre de la journée consacrée à la Première Dame sur le CLJ en ce jour, nous vous recevons pour nous en dire un peu plus à propos du FAFSI. Qu'est-ce que le FAFSI, pour commencer?
Mais je vous remercie, Hugues. Écoutez, le FAFSI, c'est le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il est défini. Et c'est un fonds de microcrédit qui a été créé depuis 2012 par Monsieur le Président de la République, donc par décret. Et dont la présidence est confiée à Madame la Première Dame. Mais pour quelle raison? Simplement parce que le FAFSI est né de la promesse électorale du président de la République qui, en 2010, au cours de la campagne pour l'élection présidentielle, voyant le niveau de difficulté de ses sœurs, les femmes de Côte d'Ivoire, voyant la pauvreté, la vulnérabilité à laquelle ces femmes-là étaient confrontées, le président a décidé qu'une fois élu, il mettrait en place un fonds de microcrédit qui permettrait donc à ses sœurs de bénéficier de microcrédit pour pouvoir exercer leurs activités génératrices de revenus. Mmh. C'est ce qui a été fait avec le FAFSI en 2012. Donc, c'est un fonds qui permet aux femmes, sans grands moyens, d'obtenir un prêt dans nos microfinances partenaires et mener leurs activités pour se prendre en charge.
D'accord, donc voilà. Ça fait 5 ans que ça existe.
5 ans que ça existe.
D'accord. Voilà. Et quelles sont les spécificités du FAFSI?
Les spécificités, nous pouvons citer, par exemple, le fait que c'est un fonds qui s'obtient sans frais de dossier. Vous savez que pour obtenir un prêt dans nos banques classiques, il est très difficile. Il faut que les personnes qui sollicitent un prêt aient des biens, elles aient un aval, elles aient une garantie, elles ouvrent un compte avec beaucoup de frais et tout cela. Mais le FAFSI, heureusement, a été conçu pour éviter toutes ces difficultés aux femmes. Et donc, non seulement rien ne leur est demandé pour ouvrir les dossiers, rien ne leur est demandé comme aval, rien ne leur est demandé en termes de garantie, mais en plus, une fois que ces femmes-là bénéficient du prêt, elles ont la possibilité de rembourser sur 12 mois. C'est-à-dire qu'une femme, regardez vous-même, une femme qui bénéficie d'un prêt de 50 000 francs selon l'activité qu'elle veut mener avec 50 000 francs, mais on ne lui demandera pas de rembourser dans les deux mois qui viennent. Elle a 12 mois. Initialement, Microfinance Partenaire mettait un peu la pression sur les femmes. Écoutez, vous avez 3 mois pour rembourser. La Première Dame a dit non, pas question. Il faut laisser toute la latitude aux dames de s'installer, de commencer leurs activités sans pression. Mmh. Elles ont 12 mois. Mmh. Donc, vous sollicitez 50 000 francs, vous remboursez en 12 mois, vous sollicitez 60 000 francs, etc. Donc, c'est vraiment un prêt qui se fait sans pression sur nos femmes.
Et c'est parfait, j'allais y venir. Pourquoi la Première Dame, Dominique Ouattara, a-t-elle éprouvé le besoin de créer un tel fonds?
Elle a éprouvé ce besoin pour plusieurs raisons. La première raison, comme je le disais tantôt, mais parce que avec son époux, en faisant le tour de la Côte d'Ivoire, ils ont constaté le niveau de difficulté auquel les femmes étaient confrontées. Donc, il était tout à fait de bon aloi d'aider ces femmes-là, de les aider à sortir de la pauvreté. Et surtout, de voir que les femmes constituent la couche sociale la plus fragile de notre société. Elles sont très vulnérables, elles n'ont pas de moyens, mais elles sont déterminées. Elles ont pour elles leur volonté, leur détermination, leur bonne volonté de pouvoir tout faire. Et donc, la Première Dame a juste voulu les aider. Et c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Le FAFSI est créé, les femmes sont heureuses et elles bénéficient de ce fonds et elles mènent leurs activités génératrices de revenus, activités qui leur permettent donc elles-mêmes de se prendre en charge, de devenir autonomes, mais également de prendre en charge leur famille, leurs enfants, de les scolariser. Et c'est très important.
Quand on sait que la famille repose en général sur les mamans, sur les femmes dans les foyers.
Tout à fait.
Alors, vous avez fêté récemment les 5 ans du FAFSI. Quel bilan peut-on faire du FAFSI après ces 5 années de fonctionnement?
Écoutez, Hugues, le bilan, il est, de notre point de vue, assez positif. Il est largement positif, sans tomber dans l'autosatisfaction. Les chiffres, je vais vous les donner un peu. D'abord, nous avons un capital qui a augmenté de manière vertigineuse grâce à la confiance du président de la République. Je vous ai dit que c'est lui qui a pris la décision à l'origine de la création du FAFSI, donc il a pu son épouse. Au démarrage, le FAFSI était, avait un capital d'un milliard en 2012, en décembre 2012, lorsqu'on le lançait. Et aujourd'hui, nous sommes passés à 9 milliards. 9 milliards donc pour le capital, sans compter le retour sur investissement qui nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 6 milliards.
Et de continuer d'aider d'autres femmes.
Et de continuer d'aider. Donc, au lieu de 9 milliards, nous fonctionnons en réalité avec près de 16 milliards. Et donc, aujourd'hui, pour les chiffres, il y a ce bilan qui est satisfaisant. Il y a aussi le bilan humain, c'est-à-dire le nombre de femmes qui bénéficient du FAFSI. Combien de projets le FAFSI a pu financer? Nous sommes aujourd'hui à près de 125 000 femmes. 125 000 femmes qui ont bénéficié du FAFSI en très peu de temps. Notre motif, un autre motif de satisfaction pour nous, c'est également le taux de remboursement. Je disais que ce sont des prêts qui sont octroyés aux femmes. Mais l'une des caractéristiques principales du FAFSI, c'est l'engouement avec lequel les femmes remboursent le FAFSI. Ah, nous sommes bien, à un taux national bien. De 95%. C'est remarquable.
Elles sont de bonne foi, c'est un honneur pour les femmes du pays.
Exactement. Mais parce que les femmes ont compris l'enjeu de ce fonds. Elles savent que c'est un fonds qui leur est dédié. Elles ont intérêt à assurer la pérennité de ce fonds. Et pour qu'il soit pérenne et durable, il faut qu'elles remboursent pour permettre à leurs autres sœurs de bénéficier du fonds. Et c'est ce qui se fait, fort heureusement. Donc, le taux de remboursement est un motif de satisfaction, 95% sur le territoire national. C'est également un fonds qui a une vocation nationale. Les femmes qui en bénéficient, c'est sans distinction d'ethnie, de religion, de parti politique. Voilà, donc toute femme peut en bénéficier. Et ça aussi, c'est un motif de satisfaction. Donc,
Peu importe qu'elle soit ivoirienne ou pas.
Oui, elles sont les femmes de Côte d'Ivoire. Donc la définition, c'est le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Donc en général, voilà, ce sont elles qui en bénéficient.
Alors je vous propose d'écouter une chanson et on va se retrouver juste après la pub.
Merci.
D'accord ?
Ok.
Allez, à tout à l'heure.
Midi, 15h, la pause déjeuner.
Sur Nostalgie.
Et la vie est belle. La vie est belle. La vie est belle.
Allez, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes avec Madame Sylvie Yao, directrice de cabinet de la Première Dame, qui partage la pause déjeuner ce temps avec nous, à l'occasion de la journée qui est consacrée à la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, qui sera d'ailleurs l'invitée de Check on Air à partir de 18h. Madame, c'est honorable, cette promptitude des femmes à rembourser les prêts qui leur sont faits. Ça démontre bien l'esprit de partage des femmes du pays.
Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord avec. Et pour nous, c'est le lieu de féliciter ces femmes qui ont très, très bien compris le fonctionnement de ce fonds.
Et justement, sur le terrain, que vous confient les femmes bénéficiaires sur l'évolution de leur situation sociale? D'abord, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter en ce qui concerne la façon de s'y prendre pour bénéficier des fonds du FAFSI? C'est ce dont on parlait il y a quelques instants.
Oui.
Autre chose à ajouter?
Bien sûr.
En plus de ce que vous avez déjà
dit. Je peux rappeler conditions d'accès au FAFSI. Je vous ai dit que c'était quelque chose de facile, il n'y avait pas de conditions particulières. En revanche, les femmes doivent être munies d'un projet. Ah oui, 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 il faut avoir un projet. On ne vient pas prendre le FAFSI juste pour aller faire la fête, pour aller au mariage, aller au funérail, comme on aime bien. Mais
exactement.
Il faut avoir un projet. Je veux réaliser une activité génératrice de revenus. Et c'est en ce moment-là que vous rendez dans une de nos microfinances partenaires, qui sont l'UNACOPEC, le GSI, la Compagnie africaine de crédit et EcoCred, qui sont disséminés sur l'ensemble du territoire national et qui attendent les femmes avec leurs projets. Et les femmes, une fois arrivées donc dans ces microfinances-là, elles bénéficient, c'est ce qui est encore spectaculaire dans le FAFSI, c'est que les femmes bénéficient d'une formation gratuite, entièrement gratuite, qui leur permet donc de bien gérer leurs affaires, de faire la différence entre le capital et le bénéfice, à ne pas le confondre, pour qu'elles puissent bien rembourser.
Voilà.
Surtout, c'est important pour nous et pour tous. Et donc, une fois que les femmes bénéficient donc, de cette formation gratuite, elles ont accès donc, aux prêts. Voici en quelques grandes lignes.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elles vous confient, ces femmes bénéficiaires, sur l'évolution de leur situation sociale?
Mais Hugues, écoutez, les témoignages sont très touchants, très très touchants. Chaque fois que nous avons l'occasion de les entendre, elles nous révèlent des choses qui sont particulièrement gaies. Elles sont heureuses d'avoir pu bénéficier du FAFSI. Elles racontent dans quelle situation de précarité elles étaient auparavant, avant d'avoir bénéficié du FAFSI. les difficultés qui étaient les leurs, la vulnérabilité dans laquelle elles étaient. Et une fois qu'elles ont le FAF, c'est souvent pas grand-chose, hein, un fonds de 100 000 francs pour démarrer ou de 50 000 francs selon l'activité. Mmh. Et les femmes, sachant bien gérer leurs affaires, tout de suite démultiplient leurs activités jusqu'à ce que certaines même sortent aujourd'hui du FAFSI. Elles bénéficient maintenant des prêts classiques. Elles vont à l'UNACOPEC, elles peuvent avoir 2 millions, etc. Et elles sont heureuses, elles sont épanouies. Elles prennent en charge leur famille. Elles nous donnent des exemples au quotidien. Elles nous disent, par exemple, aujourd'hui, je n'attends pas mon mari. Quand mon enfant est malade, je peux l'emmener tout de suite au centre de santé. Mmh. Voilà, quand je dois financer quelque chose à la cuisine, j'attends pas que mon époux soit là en son absence. Je peux le faire, ce que je ne pouvais pas faire initialement.
Et j'espère, madame, que ça se fait en toute humilité.
En toute humilité, bien sûr, elles savent.
Je l'espère.
Elles savent la contribution qu'elles apportent. Hein. Les hommes sont toujours là, bien entendu.
D'accord. Alors, quel est l'objectif chiffré à court et moyen terme du FAFSI?
Alors, l'objectif chiffré, nous sommes ambitieux parce que nous avons les moyens de notre politique. Hein. Nous avons les moyens, nous avons la matière, les femmes sont là, elles sont demandeuses. Nous avons le budget qu'il faut. Le président de la République continue de faire... confiance aux femmes, donc il augmente sans cesse le capital du FAFSI. Mmh. Et nous avons également le retour sur investissement, je vous le disais tantôt, grâce au remboursement bien fait des femmes. Et donc nous avons les moyens financiers pour accompagner toujours ces femmes. Et donc nous pensons qu'aujourd'hui, de 125 000 femmes, nous pourrons passer d'ici à 2020 au double, parce que la machine est huilée. Nous avons augmenté nos partenaires techniques. Mmh. Les femmes savent comment ça fonctionne. Elles sont très rapides et le système se passe très, très bien. Donc, nous pensons que d'ici à 2025, nous pourrons doubler le taux de bénéficiaires. C'est ça notre ambition.
C'est tout à votre honneur.
Pour le bonheur des femmes de Côte d'Ivoire.
Alors, la première dame met un point d'honneur à la lutte contre le travail des enfants et elle en a fait une priorité absolue. Où en sommes-nous en termes d'action? Et ce sera la dernière question.
Alors, le travail des enfants, effectivement, comme vous le dites si bien, c'est l'une des grandes priorités de la première dame dans ses actions quotidiennes. Hein. Mmh. Tout le monde le sait et... Depuis 2012 également, nous avons ouvert ce grand chantier de lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Vous savez que par le passé, c'était un sujet controversé. Beaucoup ne voulaient pas reconnaître l'existence de ce fléau dans notre pays.
Tout à fait.
Alors que c'est une réalité, on ne peut pas continuer à le nier. Mmh. Et le président de la République, dès son accession au pouvoir, a tout de suite pris toutes les mesures qu'il fallait pour en faire une priorité gouvernementale. Mmh. Et en raison donc de l'affection de la première dame pour les enfants, que tout le monde sait, hein, tout le monde sait comme elle aime les enfants. Et tout de suite, le président lui a confié la présidence du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et donc, il y a deux comités qui travaillent au quotidien sur cette question. Il y a le comité interministériel qui regroupe une douzaine de ministères et le Comité national de surveillance au sein duquel on trouve bien entendu, le cabinet de la première dame, elle en est la présidente, mais aussi des partenaires nationaux et internationaux, des organisations du système des Nations Unies, comme l'UNICEF, le BIT, des ONG nationales, qui travaillent avec la première dame pour pouvoir apporter une solution à cette question. Donc, les actions, elles ont été très nombreuses, les actions qui ont été menées. Mmh. Il y a eu tout de suite, la mise en place d'un plan d'action national, qui est un document de stratégie dans lequel il fallait énumérer toutes les actions urgentes qu'il fallait mener pour faire reculer ce fléau. Donc, dans ce plan d'action national, nous avions prévu de réaliser une vaste campagne de sensibilisation. Parce que vous savez, Hugues, la question du travail des enfants, c'est avant tout une question d'information et de sensibilisation.
Tout d'abord.
Parce que les parents ne sont pas censés savoir qu'il y a des travaux dangereux, qui sont interdits aux enfants, il y a des travaux légers qu'ils peuvent effectuer. Et donc, la première dame a mené tout de suite cette campagne-là. Vous l'avez vu, je pense, dans la rue, des affichages, par
inscription
près, et même à la télé, des sports télé, etc. Mmh. Et il y a aussi eu des campagnes de proximité. La première dame s'est déplacée personnellement jusque dans des zones de production de cacao, puisque vous savez que c'est le cacao de Côte d'Ivoire qui est très menacé par cette question-là. Mmh. On accuse notre pays de produire du cacao avec le sang des enfants, etc. Donc, c'est une question que la première dame a prise très au sérieux et elle s'est déplacée dans le sud-ouest, à San Pedro, à Soubré, pour rencontrer les communautés productrices de cacao et leur dire qu'il ne fallait pas utiliser les enfants. Donc la sensibilisation s'est faite également sur le terrain. En plus de cette sensibilisation, il y a eu aussi le renforcement de capacités, c'est-à-dire la formation de tous les acteurs qui interviennent dans la chaîne de remédiation, c'est-à-dire vous avez les préfets, les sous-préfets, vous avez la gendarmerie, la police, les journalistes, toutes les couches sociales, les inspecteurs du travail, tous ceux qui interviennent pour remédier à ce fléau ont été formés. Nous avons également, nous pouvons parler aussi des actions de renforcement de capacité des enseignants, mais aussi la construction d'infrastructures sociales de base, notamment les écoles. La Première Dame n'a pas arrêté de parler avec nos partenaires, les industriels du cacao et du chocolat, leur demander d'aider l'État à construire des salles de classe pour permettre aux enfants, où qu'ils soient sur le territoire national, d'aller à l'école, ce qui va réduire les risques, leur exposition au risque d'être utilisée dans les plantations et autre chose. Donc, on a renforcé ces structures-là et il y a eu aussi, au niveau international, surtout la coopération sous-régionale.
Excusez-moi, mais avant d'y arriver, est-ce que cette sensibilisation a porté du fruit?
Oui. Nous sommes persuadés que cela a porté du fruit. Nous continuons, bien entendu. Le travail n'est pas fini. Il ne faut pas baisser les bras. Nous continuons. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que nous sommes alertés chaque fois que un enfant est pris en situation de travail, de maltraitance. On peut nous appeler, dire, voilà, Madame Yao, est-ce que vous pouvez informer la Première Dame que je suis à Korogo, je vois un enfant qui m'en dit, je suis à San Pedro, j'ai vu qu'un enfant... Ah oui, nous sommes alertés régulièrement, à chaque fois. Cela veut dire que la population aujourd'hui est consciente de ce danger. Et la population sait que il faut pas soumettre les enfants à des travaux dangereux. Et mieux, les enfants eux-mêmes le savent. Et voilà, c'est eux-mêmes qui disent aux parents, attention, la Première Dame dit que les enfants ne doivent pas faire telle chose, vous voyez jusqu'où, voilà, ça va et que nous sommes satisfaits, nous sommes contents, mais nous continuons le travail. Donc voici un peu pour ce qui est de la sensibilisation. Et donc je disais aussi qu'il y a un travail sous-régional, le renforcement de la coopération sous-régionale qui est fait parce que, vous savez, le travail des enfants a aussi son origine dans ce qu'on appelle la traite transfrontalière des enfants. Il y a une traite interne. Les enfants peuvent venir de certaines régions, de la Côte d'Ivoire, pour venir à Abidjan ou dans des régions productrices de cacao. Mais il y a aussi le fait que des enfants viennent des régions voisines de notre pays, hein, à travers ce qu'on appelle la traite. Et ils arrivent. Donc, nous renforçons la capacité de nos partenaires, notamment par la signature de conventions entre ces pays-là et notre pays sous l'égide des Premières Dames. Vous savez? Donc, nous avons déjà eu la signature d'une convention avec le Burkina Faso, avec le Mali, avec le Ghana. Et tout récemment, la dernière en date dont vous avez dû entendre parler, c'est la conférence des Premières Dames de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel.
C'était il y a quelques semaines.
Quelques semaines, 17 et 18 octobre 2017 à Abidjan. C'est une conférence qui a vu la participation de 17 Premières Dames et de leurs représentantes de donc l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Et pourquoi ces conférences, pourquoi ces réunions avec ces consuls, les Premières Dames? C'est pour susciter une plus grande implication donc de ces Premières Dames-là dans la lutte contre ce fléau et surtout amener les pays à prendre conscience de ce qu'il faut mutualiser les efforts afin d'obtenir des résultats escomptés. Parce que tout seul, la Côte d'Ivoire ne pourra pas réussir ce pari. Donc il faut que nous le fassions en tandem avec les pays frères. Et c'est ce que nous faisons grâce donc à cette campagne qui permet donc de renforcer la coopération sous-régionale.
Eh bien, on a beaucoup appris à propos des activités de la Première Dame. Mais du coup, c'est terminé. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de partager avec moi ce plat de foutou.
Avec grand plaisir.
Alors, Madame Sylvie Yao, merci d'être passée. Je précise que vous êtes directrice de cabinet de la Première Dame. Autre chose que vous voudriez bien préciser avant de nous quitter? Parce que je vous vois regarder dans vos notes.
Je voudrais juste ajuster concernant le travail des enfants qu'il faut dire aujourd'hui. Parce que certains peuvent dire, le travail des enfants continue. C'est un travail de longue haleine, hein. Il ne faut pas se leurrer. Faut pas penser qu'un fléau qui est vieux comme le monde
va s'arrêter du jour au lendemain.
Jour au lendemain. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que grâce à l'engagement personnel de la Première Dame, grâce à son leadership qui permet de mobiliser les efforts de toutes les parties prenantes, aussi bien au niveau national que sous-régional ou international, la Côte d'Ivoire réalise des progrès certains, significatifs, Et nous l'avons vu grâce au classement qui a été fait par le département d'État des États-Unis, qui a reclassé la Côte d'Ivoire à un rang, au rang des pays qui font des efforts pour éliminer le travail des enfants.
C'est parfait.
Alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Mm-hmm. Donc voilà ce que j'aimerais préciser.
C'est une précision de taille d'ailleurs.
Voilà,
je vous remercie. Allô, merci madame.
Je vous en prie.
Vous passez un bel
c'est
après-midi.
Moi qui vous remercie.
Et à la prochaine, peut-être.
Bien sûr, avec grand plaisir.
Et on dit plein de succès à la Première Dame et dans ses initiatives.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir madame.
Au revoir.